Bon réveil à tous, le journal de Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La République, c'est moi. Les hurlements et l'attitude de Jean-Luc Mélenchon lors d'une perquisition au siège de la France Insoumise lui valent de se retrouver devant la justice ce matin. Un procès politique dénonce les Insoumis.
Un nouveau patron pour la SNCF. Emmanuel Macron choisit Jean-Pierre Farandou, proche de Guillaume Pépi, pour prendre les rênes. Et cela inquiète les syndicats, vous l'entendrez.
Dans ce journal, nous irons à Tokyo, où le verdict vient de tomber pour les anciens dirigeants de l'opérateur de Fukushima. Ils sont acquittés.
Et puis nous serons en Israël, Rosalie, où Benjamin Netanyahou marche sur un fil après les législatives.
Les débats seront-ils aussi animés que la perquisition au siège de la France Insoumise? Le procès de Jean-Luc Mélenchon et cinq de ses proches s'ouvre ce matin à Bobigny. Ils vont devoir répondre de rébellion et provocation pour des faits qui ont désormais presque un an, Antoine Marette.
Le 16 octobre dernier, des perquisitions ont lieu notamment au domicile de Jean-Luc Mélenchon, puis au siège de la France Insoumise. Elles s'inscrivent dans le cadre de deux enquêtes préliminaires, l'une liée à l'emploi d'assistants parlementaires européens, l'autre au compte de campagne pour la présidentielle de 2017. Dès la première perquisition, Jean-Luc Mélenchon se filme en direct sur son compte Facebook pendant une vingtaine de minutes. Il y dénonce un acte politique et il accuse la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Puis il rejoint le siège de la France Insoumise dans le 10e arrondissement de Paris où a lieu l'autre perquisition. Très rapidement, les esprits s'échauffent, le ton monte. Jean-Luc Mélenchon et ses amis tentent de rentrer de force dans leur local. Un moment, l'ancien candidat à la présidentielle bouscule un représentant du parquet ainsi qu'un policier qui tente de s'interposer, à qui il dit notamment cette phrase courroucée devenue célèbre « La République, c'est moi ». Aussitôt, le parquet de Paris ouvre une enquête pour menaces ou actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'affaire est ensuite dépaysée au parquet de Bobigny dans un souci d'impartialité, selon les termes du parquet général de Paris.
Mais pour les Insoumis, rien ne tient dans cette affaire. Ils dénoncent un procès politique, à l'image du député LFI de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel.
Nous, on dénonce non pas la justice globalement, l'instrumentalisation politique d'une partie de la justice. Je parle des procureurs, je parle du parquet. On voit bien qu'on est traité de manière absolument exceptionnelle. On a le premier procès où on met des députés en correctionnel depuis 58. Et quand on regarde les raisons qui ont poussé à ça, c'est ahurissant qu'on se retrouve là. On n'était pas là pour s'opposer aux perquisitions, on était là pour simplement pouvoir être présent, ce qui est normal pour n'importe quelle personne en France. On voit bien que rien ne colle dans cette affaire. Maintenant, le problème, c'est que M. Macron, vis-à-vis de tous ses opposants, aujourd'hui, utilise la justice et la police, et ça m'inquiète du résultat.
Le procès doit durer 2 jours. Les responsables politiques croient-ils encore en la justice? C'est la question que se posera justement Frédéric Saïs dans son billet politique juste après ce journal. Il a 62 ans, 40 ans de carrière à la SNCF. Jean-Pierre Farandou s'apprête à en devenir le patron. Ce proche de Guillaume Pépi vient d'être choisi par Emmanuel Macron pour prendre la relève. Et avec tous les dossiers chauds sur la table de la réforme de la SNCF à l'ouverture à la concurrence, les syndicats l'attendent de pied ferme. Bruno Poncet est le secrétaire fédéral de Sudrail.
Nous, on n'est pas là pour choisir notre président. Nous, ce qu'on voit, c'est que ça reste dans la même lignée. Donc, en fin de compte, nous, on a combattu la politique de M. Pépi pendant toutes les années. On combattra celle de M. Farandou parce qu'on sait qu'elle ne sera pas bonne pour les cheminots ni pour les âgés. Et point final. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que d'avoir quelqu'un qui est du sérail, mais ça serait pour être n'importe qui, ils auraient pu nous mettre Djebari, Elisabeth Borne ou qui que ce soit, ça serait toujours la même chose. Donc aujourd'hui, nous, le problème qu'on voit, c'est qu'en fin de compte, les gouvernants et la direction de l'entreprise n'a retenu aucune leçon de l'année dernière et de ce qui se passe depuis 2 ans dans le ferroviaire et continue sa politique de destruction complète d'une entreprise qui peut fonctionner et qui doit et qui devrait être un fleuron de la France. Et nous, on n'est pas là pour négocier des régressions sociales. Donc nous, ce qu'on sait, c'est qu'on va se remettre en face de lui, on va lui expliquer ce que nous, on veut. Et c'est la même chose depuis des années. Et donc là, il va l'entendre, mais il le sait déjà. Donc il ne faut pas qu'il s'attende réellement à avoir une passation de pouvoir simple. Nous, on va tout faire pour leur faire comprendre que c'est pas comme ça que ça va fonctionner et qu'on les laissera pas faire.
Le secrétaire fédéral de Sudrail avec Hakim Kasmi. Les syndicats d'EDF appellent à la grève aujourd'hui contre le plan Hercule. Hercule, c'est le nom du projet de réorganisation de l'entreprise. Le gouvernement demande au patron Jean-Bernard Lévy de lui rendre sa copie d'ici la fin de l'année. Mais le plan qui se dessine ne plaît pas aux représentants du personnel, Annabelle Grelier.
Le projet Hercule prévoit de scinder EDF en deux entités. D'un côté EDF bleu, comprenant le nucléaire, les barrages hydrauliques et le transport de l'électricité. Et de l'autre EDF vert, avec Enedis, EDF renouvelable, Dalkia, la direction commerciale. EDF bleu sera détenu à 100% par l'État, tandis qu'EDF vert sera introduit en bourse à hauteur de 35%.
Pour résumer le projet Hercule, c'est nationalisation des pertes, privatisation des bénéfices.
Une évidence pour Vincent Rodet de la CFDT qui s'explique. EDF bleu, la production coûte très cher en investissement et en maintenance, quand EDF vert regroupe toutes les activités rentables de l'électricité.
Les chacals financiers ont envie de faire des fortunes sur l'électricité et veulent casser cette boîte, historiquement, qui s'appelle EDF, qui est l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine et qui empêche ces acteurs purement concurrentiels, purement financiers, purement d'intérêt privé, purement dividendes, de faire les fortunes qu'ils voudraient à la vitesse où ils le voudraient.
Pour le gouvernement, l'ouverture aux capitaux extérieurs d'EDF vert servirait à financer la transition écologique. Faux, répond Alain André de Force Ouvrière, c'est le consommateur qui la paiera.
Si, quand il va recevoir sa facture, très certainement dans les mois après la mise en place de cette casse, où la facture ne sera plus la même. Elle est déjà plus la même aujourd'hui. Mais on n'a aucune garantie demain d'assurer avec la casse d'EDF l'acheminement de l'électricité au plus bas coût et surtout de pouvoir lui assurer un tarif réglementé, c'est-à-dire ce fameux tarif de service public qui permet aux citoyens lambda de pouvoir payer l'électricité la moins chère.
L'intersyndicale demande le retrait du projet Hercule. Aucune décision n'a encore été prise, assurait le ministre de l'Économie en début de semaine. Selon les syndicats, un pré-rapport a pourtant déjà été transmis à la Commission européenne.
Annabelle Grelier. L'engagement syndical, justement, il représente un risque professionnel significatif. C'est ce qu'établit le baromètre de la perception des discriminations publié ce matin, chapeauté par le Défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail. Le phénomène est important, nous dit ce rapport, et même si les dossiers sont encore peu nombreux, Catherine Pétillon, certains portent tout de même l'affaire devant la justice.
Il aura fallu 3 ans de procédure, mais les prud'hommes viennent de le reconnaître. Jean-Marc Cellier a été discriminé en raison de son engagement syndical. Dès que ce salarié d'un organisme de formation professionnelle se syndique à Sud Solidaire, les choses se compliquent pour lui au travail.
J'étais exclu des augmentations individuelles, de certaines réunions. En fait, c'est un faisceau d'indices. C'est pas forcément quelque chose de très marquant, brutalement, d'identifiable à un moment donné. Mais c'est quand on se met à regarder un peu en arrière, sur une certaine durée, et qu'on est prêt aussi à y réfléchir pour se dire « mais qu'est-ce qui s'est passé quoi ?»
C'est quand il est nommé secrétaire général de son syndicat que la situation s'aggrave. Jean-Marc Cellier décide alors de regarder avec attention son évolution professionnelle.
J'ai vu qu'à partir de l'année de ma dernière augmentation individuelle, qui remontait à 2004, jusqu'à 2016, le moment où j'ai décidé d'entreprendre une action prud'homale, j'avais été toujours rémunéré en dessous de la moyenne des rémunérations de mes classes d'emploi, alors que par ailleurs, j'avais une ancienneté largement supérieure à l'ancienneté moyenne dans l'entreprise.
Pour obtenir réparation, la démarche est longue et parfois difficile.
Ça suppose d'avoir fait un chemin psychologiquement, quoi. Parce que c'est jamais non plus agréable, quand on a fait sa carrière dans une entreprise, de se dire qu'elle vous a discriminé, quoi.
Rares sont ceux qui, comme lui, vont jusqu'au bout. Selon le baromètre des discriminations, 4 personnes sur 10 qui s'estiment discriminées disent renoncer à faire valoir leurs droits, faute de pouvoir réunir les preuves.
Catherine Pétillon. Le gouvernement au chevet de la pénurie de médicaments. Le Premier ministre Édouard Philippe reçoit cet après-midi une délégation d'entreprises du secteur pour engager rapidement des actions sur le sujet, souligne Matignon. L'exécutif qui veut aussi prendre en main les 1000 premiers jours de l'enfant. Emmanuel Macron installe une commission cet après-midi à l'Élysée. Elle va devoir faire des préconisations pour accompagner les parents du 4e mois de grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et l'idée, selon le secrétaire d'État à la petite enfance, Adrien Taquet, c'est de sortir de la seule approche sanitaire.
Sur cette période de la vie, on a eu longtemps une approche assez médicale, sanitaire. C'est un peu caricatural, mais en gros, c'était voilà comment va se passer la grossesse et l'accouchement. Et puis, une fois qu'il sera né, il faudra faire les vaccins. Bon. Et effectivement, le changement de paradigme, le pivotement, fait que l'on veut ajouter à cela une approche plus psycho-affective, psycho-relationnelle. Alors, l'État n'est pas, on ne se dirige pas vers un État nounou, l'État n'est pas là pour s'immiscer dans les affaires familiales. Il y a une expression que Sophie Marianopoulos utilise qui est de développer des politiques de l'attention. Voilà. Et je pense que c'est ça que nous devons faire, développer une politique de l'attention, c'est-à-dire accompagner les parents, leur donner les outils, les conseils conseil peut-être un peu labellisé, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'informations qui tournent. Vous avez 52% des parents qui vous disent qu'ils trouvent des informations sur les réseaux sociaux pour s'occuper de leur enfant. Donc il y a besoin probablement de faire l'état des connaissances, de hiérarchiser ces connaissances et d'offrir aux parents des outils pour faciliter ce moment-là et pour améliorer le développement de leur enfant.
Le secrétaire d'État Adrien Taquet avec Anne Fauquemberg.
8h10, la suite des matins sur France Culture avec le journal de Rosalie Lafarge. Les États-Unis haussent le ton 5 jours après l'attaque d'installations pétrolières en Arabie Saoudite.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo évoque un acte de guerre de l'Iran. La Maison-Blanche promet de renforcer les sanctions contre Téhéran d'ici 48 heures. Mais le président Donald Trump semble malgré tout un peu hésitant. C'est en tout cas l'analyse de Robert Mallet, président de l'International Crisis Group de Washington et ancien conseiller de Barack Obama.
Il y a deux lignes dans la tête du président Trump, ça on le voit depuis longtemps, c'est-à-dire que d'un côté, il ne veut pas faire de la guerre, il a fait campagne pendant un an en dénonçant les guerres interminables des administrations précédentes. Depuis qu'il est président, il dit aussi que les États-Unis ont gaspillé des milliards de dollars dans des guerres sans fin. Donc son instinct, c'est de ne pas faire la guerre, son instinct, c'est justement de dire on va s'occuper de nos affaires et non pas des affaires externes. Mais de l'autre côté, il aime pouvoir projeter cette image d'homme fort qui ne se laisse pas faire et qui réagit lorsqu'on l'attaque. Il est un peu lui-même tergiverse entre ces deux. Il est vrai qu'il a eu des conseillers beaucoup plus belliqueux, c'était le cas de John Bolton. Et donc on voit que d'un côté il dit on va réagir et de l'autre côté, ce qu'il annonce aujourd'hui, c'est des sanctions contre l'Iran. Comme s'il y avait encore des sanctions qu'on pouvait imposer au pays contre lequel les États-Unis ont déjà déclaré les sanctions maximales, ou la pression maximale. Pour l'instant, les indications sont que l'hésitation l'emporte sur la détermination de répliquer. Mais une réplique militaire ouverte, cela pose le risque d'une escalade parce que l'Iran réagira du tac au tac.
Robert Mallet avec Grégory Phillips pour France Culture. 8 ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, c'est l'acquittement pour 3 anciens dirigeants de TEPCO, l'opérateur de la centrale. Le verdict est tombé il y a un peu plus d'une heure au tribunal de Tokyo où vous vous trouvez, Yann Rousseau.
Les 3 anciens cadres de TEPCO, le président et les 2 vice-présidents, sont donc innocents. Sur le papier, ils encouraient une peine maximale de 5 ans de prison pour négligence professionnelle ayant entraîné la mort. L'accusation leur reprochait de ne pas avoir su éviter la catastrophe et d'être responsable de l'évacuation dans l'urgence en mars 2011 de dizaines de milliers de personnes qui vivaient autour de la centrale et qui fuyaient la radioactivité. 44 malades d'un hôpital voisin étaient décédés dans cette évacuation, parfois assez chaotique. Mais l'accusation n'a finalement pas réussi à démontrer qu'ils auraient pu éviter cette destruction de la centrale en prenant des mesures de sécurité supplémentaires. Les avocats des familles de victimes s'étaient appuyés sur un rapport de 2002 qui montrait qu'une vague géante pouvait venir en cas de tsunami frapper la centrale nucléaire. Mais les avocats des accusés ont expliqué que plein d'autres études avaient montré que cette probabilité de la vague géante était très faible et que les patrons de TEPCO avaient donc respecté les procédures habituelles d'analyse du risque. Cet après-midi, les associations de victimes sont très remontées contre ce verdict et elles ont annoncé qu'elles allaient probablement faire appel de cette décision qui n'intéresse pas beaucoup l'opinion publique japonaise.
France Culture à Tokyo avec Yann Rousseau. Un attentat à la voiture piégée fait 10 morts ce matin en Afghanistan. C'est un immeuble des services de renseignement qui a été visé dans le sud du pays. Attaque revendiquée par les talibans. Benjamin Netanyahou n'ira pas à l'Assemblée Générale de l'ONU. Le Premier ministre israélien annule son déplacement après être arrivé au coude à coude avec son rival Benny Gantz aux législatives, ce qui ouvre la voie à des tractations douloureuses et Benjamin Netanyahou marche sur un fil, Frédéric Mettezo.
Il se réjouissait de se rendre à New York, qu'il aime tant, pour rencontrer son ami Trump et les grands de ce monde. Mais Benjamin Netanyahou a préféré annuler son déplacement à l'Assemblée générale des Nations unies. Il a trop à faire ici en Israël pour constituer sa coalition sioniste avec les partis de droite et les religieux. Mais cela ne suffira pas. Et s'il veut obtenir la majorité absolue, il devra débaucher des élus de bleu-blanc, de gauche ou de la liste Lieberman. Sauf que ce dernier intrigue de son côté pour que Netanyahou soit chassé de la direction du Likoud. Depuis 24 heures, la presse israélienne constate que Bibi le magicien n'a plus de lapin dans son chapeau. Ne pas avoir gagné hier, c'est un peu avoir perdu. En avril dernier déjà, faute de réunir une coalition, il avait poussé la Knesset à se dissoudre. Puis il a mené une campagne hyperactive, hyperagressive contre la presse, les électeurs arabes et ceux qu'il appelle les gauchistes. Il s'est rendu à Sotchi pour voir Poutine. Trump lui a promis un traité de défense mutuelle. Il a hésité à lancer une opération militaire à Gaza, il a martelé nuit et jour que l'Iran était une menace. Enfin, il a promis d'annexer des pans de la Cisjordanie pour séduire les colons. Tout cela pour un nouveau match nul et une convocation chez le juge début octobre pour plusieurs affaires financières.
Frédéric Mettezo, correspondant de France Culture en Israël. Le temps pour aujourd'hui avec encore des orages dans le sud. D'ailleurs, un soleil plus ou moins généreux est au rendez-vous. Au réveil, il fait entre 14 et 17 degrés sur la moitié nord, de 16 à 25 pour la moitié sud, Guillaume Herbert.
Merci beaucoup, Rosalie Lafarge.